I just got three things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your engines!
Green flag, buggity, buggity, buggity. Let's go racing, boys!
Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Au programme cette semaine, nous allons revenir sur les 12 heures de Sebring et sur la course de Bristol en Cup. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses vont tourner autour des pneus, me semble-t-il. Donc, pour m'accompagner, l'équipe au grand complet, à commencer par le spécialiste du pneu, l'homme de la gaufre également, Arnaud. Salut Arnaud.
Salut Geoffroy, salut tout le monde.
Lilian est là, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Et Adrien, salut Adrien, ça va ?
Bonjour Geoffroy, bonjour à tous, ça va. Je pense qu'elle va être un pneu longue cette émission.
Ah ça y est, il commence.
Il commence.
Eh bien ce que je vous propose messieurs, c'est de débuter tout de suite avec Sebring. Les 12 heures de Sebring qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, je crois. Enfin, dans la journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche. On va y arriver. Et Adrien, tout s'est joué à 5 minutes près. À 5 minutes près, tu étais le plus heureux des hommes aujourd'hui avec une victoire de Sébastien Bourdais. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, tu fais grave la gueule.
Grave, non, mais un pneu, quoi, donc...
Ah ouais, t'as deux fois en 30 secondes, quoi, t'as...
Ça va être très, très long, là.
Non, ben après, ça, on a eu les 23h56 du Mans, et ben il y a les 11h56 de Sebring, non, mais... Bon, c'est pas du tout le même scénario, mais... oui, un peu déçu, après... la performance qu'avait eu la voiture à Daytona, où on s'attendait à voir Cadillac devant, là ils avaient de nouveau une voiture performante avec les deux autos qui étaient partis devant. Et puis la stratégie, les drapeaux jaunes ont fait que ça a un petit peu redistribué les cartes. Donc avant de parler directement de la catégorie reine, rapidement sur la partie GT, c'est Mercedes qui s'impose en GTD. Mercedes c'était seulement présent en GTD. Ils sont pas présents en GT Pro. C'est Winward qui s'impose en GTD. En GTD Pro, ça a été serré et finalement c'est la vieille relique de Lexus qui tient toujours la dragée haute aux nouvelles autos flambant neuves comme la Ferrari 296. Donc moi ça me fait toujours un peu rire.
Ah, puis elle avait fait l'Apollo en plus. Hein.
Ouais, donc merci la BOP, je pense. Je suis curieux de voir ce que va donner la nouvelle Lexus là avec Akkodis en Europe. Parce que eux, par contre, avec cette même auto en Europe, c'était un peu plus compliqué au Qatar. Donc ils découvrent en même temps. La Lexus qui s'impose devant une Ferrari et la Lamborghini de Pereira Pepper Bortolotti. Ça a été pas mal bousculé pareil en fin de course, hein, puisque. Corvette, non seulement après avoir fait de la mécanique sur la Corvette pendant la course, mais en plus ils ont été visiter les bacs à sable dans les dernières minutes.
Et ils ont encore fait de la mécanique, hein, décidément.
Ils ont encore fait de la mécanique, quoi, c'est un scandale.
Adrien est vraiment au plus bas, là, moralement.
Ah, mais ils nous ont habitués à mieux quand même, hein, mais c'est. La 4 a eu des problèmes très tôt, la 3 était en lice pour le podium, voire même pour gagner, mais. Visiblement, on a joué un peu les pare-chocs en GT en fin de course et pas que en GT, on verra. Donc, malheureusement, pas de Corvette sur le podium. Mais c'était quand même relativement serré. En P2, donc que des Oreca sauf une Ligier qui finit quand même quatrième. C'est Era Motorsport qui s'impose. Devant le TDS Racing, United Autosport USA. Donc 3 Oreca sur le podium, la Ligier étant 4ème. Je cherche Ben Keating, qui était quand même. Qui est l'un des meilleurs amateurs, hein, du plateau. Et Ben Keating, qui lui, par contre, termine quand même relativement loin, 10ème de sa catégorie. Bon, c'était quand même serré dans toutes les disciplines, moi j'ai trouvé. Je sais pas pour ceux qui ont regardé comment vous avez trouvé un petit peu cette course.
Bah, après, tu avais quand même des drapeaux jaunes assez réguliers, forcément, ça resserrait les écarts. Hein. Je veux dire, c'est pas comme au Mans où tu as plusieurs voitures de sécurité qui gardent les voitures à une certaine distance.
Je crois qu'il y a eu plus de 3 heures de drapeau jaune, hein. Ça a cumulé. Attends, je retrouve la stat. Je te
Et
dis.
dans les et dans la dernière heure, ouais, t'en as eu plusieurs aussi, donc ça
Ouais,
c'est.
il y a eu 2-3 belles sorties quand même.
C'est la spéciale, hein, les drapeaux jaunes dans la dernière heure, même s'ils sont mérités, enfin, y en a toujours, Sebring.
L'IMSA trouve toujours une solution, que ce soit Sebring ou ailleurs.
Arnaud, ça y est,
Ouais.
t'as retrouvé ta stat?
Ouais, donc il y a eu 8h44 sous drapeau vert et 3h16 sous drapeau jaune.
Ouais, donc 25% de la course.
C'est pas mal. C'est pas mal quand même.
C'est un bon score. Et l'image de la course, Adrien, hormis ce superbe dépassement à 5 minutes de la fin qui agit comme un crève-cœur pour toi, c'est quand même cette Cadillac sur le toit dans les pneus, quoi.
Ouais, ça, je pense que c'est ouais, c'est un peu l'image forte de la course. Alors, ça paraît, c'est bizarre comme accrochage, mais probablement une erreur d'attention d'un des pilotes qui devait peut-être trifouiller son volant ou parler avec son stand, je sais pas. Enfin, t'es pas dans l'auto, donc on peut pas savoir. Mais c'est le genre de truc bête, quoi. Il s'est un petit peu resserré. Les deux voitures sont légèrement coupées l'attrage et malheureusement, à cet endroit-là.
Bête mais lourde de conséquences derrière, quoi.
C'est le genre de crash où c'est pas du pipeau. Hein.
Exactement.
Au
Elle était
niveau
un pneu
de.
facile, hein, celle-là.
Ouais, voilà, c'est ça.
Hein.
Allez! Oh là là!
Bon, je présente mes excuses à tous ceux qui nous écoutent en direct ou en différé. Hein,
Oh, j'étais pas prêt, là.
ça va être très compliqué. Merci de penser à nous. Abonnez-vous, hein, ça nous remontera le moral.
Exactement. Oh, le forceur. Il l'a placé en début d'émission, ce coup-ci.
Il y a eu pas mal de bagarres, et puis enfin, moi j'ai pas vu la course, hein, donc j'ai vu les résumés, etc. Il y a quand même la fin de course qui est quand même dit, très serrée, mais très serrée au contact, hein, avec Bourdais et Delétrage.
Ouais,
Hein.
ça touche, hein.
Ouais, ça
Aussi.
touche à plusieurs reprises dans. Alors c'est pas le dernier tour, mais ça doit être dans l'antépénultième, je pense, où plusieurs fois ça va au contact. En fait, l'écart s'explique simplement par le fait que quand la Porsche sort la Honda à 1 heure de la fin, ils font drapeau jaune et la Cadillac rentre à ce moment-là. Et ils repartent avec des pneus, etc. etc. Si je ne me trompe pas. Et par contre, ils sont pas vraiment bien placés quand ils reviennent en piste. Et du coup, sur le drapeau jaune qui suit, Acura rentre au stand, change les pneus et Cadillac, pour récupérer la track position, en fait, ne change pas les pneus. Et du coup, il se retrouve avec des vieux pneus comparés à une Acura qui, elle, a moins d'essence et surtout des pneus en meilleur état. En fait, Deletraz, il revient comme une fusée sur Sébastien et Sébastien, il défend tout ce qu'il peut. Mais il y a un moment où il peut pas lutter quoi, il est pas à armes égales et du coup il est obligé de s'incliner quoi.
Bon, après, la 40 n'était pas non plus ridicule durant l'intégralité de l'épreuve, hein. Mais
Non
c'est
mais
sûr que oui, en fin d'épreuve, oui, je comprends que ça ait fait la différence.
les deux Sakura ont pas été ridicules hein, parce que la 10 elle a joué longtemps devant. Mais ils ont eu un problème de fluide de mémoire, je pense que c'était un radiateur qui devait être percé.
Oui, quand il y avait des fumées qui sortaient de l'échappement à droite, oui.
Ouais, je pense que c'était pas de l'huile. Je pense que c'était un radiateur qui devait, enfin c'était sur le circuit d'eau, c'était pas de l'huile. Et du coup, elle est ressortie quand même relativement loin la voiture. Je crois qu'elle a perdu un ou deux tours. Et quand tu vois qu'à la fin, en fin de course, dans la dernière heure, elle est à l'arrière du peloton, mais elle est dans les dernières et qu'elle arrive à remonter à la 6e ou 7e place, je crois. Attends, je vais attraper un classement vite fait. Acura, Proton, où est-ce qu'elle est? Tac, tac, tac. Honor de Philippi, Wayne Taylor. Elle est cinquième. Quand tu vois qu'ils sont cinquièmes, en fait, les deux remontaient comme des fusées, quoi. Donc, les deux Cadillacs, on l'avait dit avant la course, elles ont perdu leur embonpoint qu'elles avaient à Daytona. Et du coup, ben, c'est revenu dans le match, quoi.
Ça va mieux, oui, tout de suite.
Donc ça va beaucoup mieux et donc
Et elle termine dans le
victoire.
tour, ouais.
Exactement. Et donc victoire de Cadillac. Non, d'Acura devant Cadillac. Porsche 3ème. Et Porsche, quand même, grosse déception, puisqu'il s'en met une belle. Jaminet sort la 6 pendant les qualifs.
Ouais.
Voiture abîmée. C'est Mako sur la 6 qui accroche la Honda, si je ne me trompe pas. La 85, la JDC Miller a eu des problèmes relativement tôt. Donc éliminé. Donc du coup on a terminé à 9 GTP. Et la dernière c'est la 6 en fait. C'est la 6 suivie de la 5, la proto-compétition Mustang. Et la bonne surprise moi je trouve c'est la Lamborghini de Keroli Caldarelli Grosjean là, qui fait 7, qui finit dans le tour. Alors bien aidé par les drapeaux jaunes. Mais pendant plusieurs moments ils se sont retrouvés en bataille dans le peloton au milieu des GTP. Et ils lâchaient pas le morceau quoi.
Quand après, ils ont fait le taf. Vas-y, vas-y.
Ah, vas-y, vas-y.
Non, non, bah, j'allais dire, on en parlait la semaine dernière, hein, c'était leur première course, on attendait qu'au moins ils terminent la course. Bah, c'est ce qu'ils ont fait,
hein.
quoi. Voilà, ouais, c'était l'objectif
hein.
Pour roder un peu la voiture, c'était de terminer la course, et voilà, ça termine. Alors, pas avec les honneurs, certes, mais en tout cas, ça reste
bah,
tout à fait correct, quoi.
Pas avec les honneurs, pas complètement, je suis pas trop d'accord. Je trouve que. Ils avaient clairement pas une recherche de perfo parce que quand ils redémarraient, qu'ils étaient au milieu du peloton, ils se laissaient glisser derrière et ils suivaient gentiment, ils suivaient le groupe sans chercher à faire des miracles. Et finalement, ça finissait de temps en temps, ils arrivaient à accrocher une roue et ça suivait le rythme gentiment. Donc, moi je trouve que
7 et avant-dernière dans le tour, ouais, c'est ça.
Ça a fait le boulot. Moi, clairement, je n'étais pas certain de voir la voiture à l'arrivée. On voit les problèmes qu'il y a eu en Europe sur un circuit qui était a priori favorable puisque un billard. Là, quand on sait le champ de mine que c'est, moi je m'attendais à ce qu'ils aient des problèmes. Et finalement, ils n'ont rien eu. Donc, soit ils ont probablement été très réactifs suite à la course du Qatar pour peut-être mettre à jour la voiture ou faire des modifs ou des choses comme ça. Mais c'est plutôt un bon résultat, quoi. Et finalement, en termes de perfo, quand tu la compares au BM, elle est quasiment dans le même chrono. BM qui est quand même transparent depuis un an et demi, qui gagne, mais à chaque fois sur des abandons.
Sur le chat, il y a Lugub qui est d'accord avec toi, Adrien, qui dit belle tenue pour la Lambo. Il y a Nico RST qui abonde dans ton sens, qui dit que la Lambo est finie à au moins un ou deux tours en WEC. Il soulignait aussi la victoire de Connor Zilich, deux victoires en P2 à 17 ans.
C'est pas mal. Après, faut arriver à monter de division, quoi. Mais bon, là, après, c'est les budgets qui font les choses.
Bah après, là, il s'intéresse à la NASCAR. Hein. Il va arriver en truck très prochainement.
Effectivement. Et donc voilà. Mais en gros, sur le chat, toutes les personnes qui sont présentes ont apprécié cette course de Sebring. En même temps, c'est compliqué de ne pas aimer Sebring année après année. Enfin. Toi, tu dis champ de mine, je dis champ de patate. Après, chacun ses qualificatifs. Mais...
C'est vrai que le virage 17, c'est quelque chose quand même. Moi qui connaissais pas trop la piste, j'ai pris le temps de regarder les 12 heures cette année. Oh, le dernier virage, c'est quand même ce que t'imposes à la voiture.
Mais tu l'as connu ce circuit, toi, Arnaud? Tu y as été ou...
Non.
Non, t'as jamais été. Mais en qualif.
A priori, ce qui est bien aux 12 heures de Sebring, c'est ce qui se passe pas sur la piste.
D'accord. Okay. Et t'as eu des retours de gens de Michelin qui étaient sur les épreuves justement des 12 heures ou des c'était 1000 miles.
Pas sur cette année là, pas sur celle de cette année, donc j'ai pas de retour sur cette année.
Ok.
Mais quand tu regardes en qualif, juste avant que la 6 se sorte, il y a la 85 qui était passée au même endroit, mais quelques minutes avant. Et j'avais vu la voiture pomper énormément, je me suis dit, oh, il est pas passé loin de s'en mettre une, quoi. Et quand tu vois la 6 qui arrive juste derrière et qui fait Icac, magnifique, quoi. Bel effort. Mais Porsche, pour moi, aujourd'hui, c'est la déception. Donc, on verra s'ils se reprennent en Europe sur la prochaine course. Là, mais Imola, le trafic, ça va être marrant, je pense. Donc, on verra. De toute façon, l'objectif, pour beaucoup de monde, je pense, c'est les 24 heures du Mans. Mais voilà. Donc pour le résumé de cette course avec une magnifique Cadillac dorée qui n'aura terminé que deuxième.
C'est ça. Et pour conclure, si on fait un tour sur le chat, Lugub qui dit que l'erreur de Makovic Pour lui, c'est dû au boss dans le virage 17.
Mako, ah, il le connaît quand même un petit peu comme sa poche, ce virage. La Porsche, elle avait quand même l'air un peu rude sur ce tracé, hein. Elle avait l'air encore de rebondir pas mal, etc. Donc même s'ils ont fait des progrès, je me demande si sur des pistes vraiment compliquées, ils ont pas encore quelques... C'est pas encore une auto capricieuse.
Donc, Bah écoute, à voir. Donc le prochain rendez-vous, t'as dit, c'est en WEC, c'est Imola.
Imola, c'est 21 avril, je crois.
Ok, et en IMSA, bah, ce sera à la même époque, puisque ce sera du côté de Long Beach. Mais il n'y aura pas toutes les catégories.
Exactement.
Il n'y aura que les protos.
Long Beach, t'as que les GTP, non?
Les protos et les.
Et bah,
t'as
les P2 aussi.
Et une partie des GT.
Donc, pas les P2?
Non, il n'y a pas les P2. Donc voilà. Allez, messieurs, on passe à la suite avec le j'aime, j'aime pas.
Allez.
Allez, Vivian, on t'écoute.
Eh ben, on va rester du côté de Sebring pour mon j'aime. Sur les conseils d'Adrien, j'ai regardé les courses de Mazda. MX-5 Cup et les arrivées, c'est un truc de dingue, ces courses. Je vous conseille les vidéos sur YouTube en intégralité, c'est énorme, quoi. C'est du bump drafting sur un circuit routier, j'avais jamais vu ça, et les arrivées, c'est dingue, c'est dingue. Et Connor Zilic qui termine deux fois deuxième, d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Ok. Il y a un petit j'aime pas?
Bah écoute, je sais pas spécialement que j'aime pas. Non, j'en ai pas. Écoute, j'en ai pas. Tout va bien.
Oh, bah écoute, si tout va bien, c'est l'essentiel. Arnaud.
Le j'aime pas. Les journées sont trop courtes là en ce moment. Là. Ça rentre pas là.
Pourtant, les jours rallongent.
Ah ouais, mais tout ne rentre pas là. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc ça m'agace. Donc j'aime pas. Et par contre, alors j'ai adoré, alors, je ne vais pas parler de la course tout de suite, hein, de NASCAR, mais j'ai adoré le mécano de Kyle Busch qui se jette sur le capot pour l'arrêter. Enfin, ça, je pense que, de mémoire, je crois qu'il y a un pilote de la 2311 qui l'avait fait à une époque, au début là. Mais en fait, ça, je pense que ça va se démocratiser, quoi. C'est le meilleur moyen d'arrêter le pilote et je trouve que le réflexe est génial en fait parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Et au moins le pilote, bah, il voit quelqu'un sur son capot, il s'arrête et puis ça sauve la course parce que bon, enfin la course de Kyle Busch, même s'il était un peu plié, mais ça peut vraiment sauver les choses et je trouve ça génial comme démarche, comme geste, quoi. C'est vraiment la NASCAR.
Un peu suicidaire, mais bon.
Ouais, mais en fait toi tu verras pas dans les autres disciplines quasiment, tu vois. Là le gars il se pose même pas la question, quoi. Il se jette sur la voiture, quoi. J'ai trouvé ça génial. Donc ça j'adore. Voilà.
D'accord. Adrien.
Le j'aime, ouais, les 12 heures de Sebring, moi j'ai bien aimé malgré tout, même si je suis un petit peu déçu du résultat, mais bon, c'est pas grave.
Il aime tout sauf le résultat.
Il y en aura d'autres. Ah ouais, parce que je pense que toute l'équipe l'attend. Après, s'il gagne Le Mans, c'est pas grave, hein. Moi ça me va aussi, hein, mais non, puis ouais, je trouvais que cette livrée un peu sympa là, c'était aussi une occasion de. T'as une nouvelle voiture en modèle réduit, peut-être.
Pour faire une diecast, ça se dit tous les diecast.
Ah, est-ce qu'ils vont la commercialiser en diecast?
Oh,
ouais,
oui,
c'est ça.
Je pense.
Comme c'est. Je pense que c'était qu'un one shot. Hein.
Oui, mais Lilian, quand il y a de l'argent à se faire pour une entreprise.
Ouais,
elle y va,
c'est
quoi.
Une série limitée. C'est une série limitée. Donc, c'est une livrée spéciale, donc je pense qu'ils la feront.
Oui, les Corvettes et la Cadillac, ils vont sûrement les faire, oui, c'est possible.
Sûrement les faire. Donc, ouais, non, le j'aime, moi j'ai bien aimé, enfin même les courses du week-end, c'était sympa. Et le j'aime pas, là, comme ça, j'en ai pas non plus. Donc, je passe mon tour à Geoffroy.
Magnifique. Eh ben, mon j'aime, ça a été la soirée de Bristol avec vous deux. Enfin, au début, Lilian, à la fin, Adrien. Chacun son créneau. Mais c'était sympa, ça a permis de suivre la course. Une course complètement dingue, on va y revenir. Et mon j'aime pas, hormis le fait que je dois avoir à peu près 6 ou 7 heures de sport à rattraper du week-end dernier, c'est Lilian qui m'a encore donné une bonne idée de diecast à acheter.
Ah.
Avec la casserole blanche de Keselowski.
Donc. J'ai plus la course en tête si c'est pour quota ce week-end, mais.
Mais. Je valide la déco. Donc...
Bon, bah écoute, tu sais quoi acheter pour ton prochain voyage aux US?
Ouais, voilà. Il y a Lugub qui aime le placement de produits de Lego. C'était à Sebring, je crois.
Sebring, ouais, il y avait des petites voitures. Je sais pas si c'est Lego qui a fait un placement de produit, mais... C'est peut-être un mec qui avait un commissaire qui a mis ça. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas s'il avait eu une info particulière, mais...
C'est ça. Et l'info qui sert à rien vous est offerte par Loïc Duval. Je pense que vous connaissez tous Loïc Duval. Vous voyez tous de qui on parle. Bah, figurez-vous qu'il apprécie tout particulièrement les lunettes d'Adrien. Voilà.
Ouais. Fait.
Notre Adrien, hein, pas un Adrien inconnu au bataillon. Le Adrien ouais, que vous voyez, j'aurais pas pu faire la météo, là.
C'est ça, c'est assez, c'est bon côté.
Ouais, quand je l'avais croisé à Spa l'année dernière, quand j'y suis allé au dédicace, je m'étais distingué avec mes lunettes et il m'avait fait une réflexion dessus.
Ouais, peut-être, non.
Comment ?
Il pleuvait, non ?
Non, pourquoi ? Attends.
À Spa, s'il
pleuvait. Non, je crois qu'il pleuvait pas, mais c'était humide. Mais à ce moment-là, il pleuvait.
Ah bah, c'est les Ardennes belges, je vois.
Ouais. Comme dirait l'autre, c'est pas vraiment mouillé, quoi.
Non, c'était un pneu sec, un pneu mouillé, quoi.
Oh là 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 là.
Bon, allez, c'est fini.
Alors, Arnaud, quoi.
Arnaud est au bout de sa vie. On n'a pas encore commencé la partie NASCAR.
Aïe, aïe, aïe.
La NASCAR, messieurs, par où commencer en fait ? Les pneus ? Arnaud, toi qui bosses pour un concurrent de Goodyear, qui connaît plutôt bien en pneus, qui touche ta gomme, qui touche ta bille, comme tu veux, t'en as pensé quoi de cette course, cette dégradation astronomique, météorique des pneus ?
Super course ! Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu une course comme ça à Bristol ? C'est génial, j'ai adoré. Non, mais franchement, la course, enfin, si tu te mets du côté spectateur, t'enlèves la première partie de la course où là, on ne savait pas trop où on allait. Au final, on a eu une super course. Avec des bagarres, avec des pilotes qui avaient la main. Non, franchement, c'est une super course. Après, alors, le sujet des pneus. Alors, je ne vais pas vous faire une
discussion. Vas-y, un petit tableau noir, vas-y.
Non, mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu de retour officiel de ce qui s'est passé de la part de Goodyear. Goodyear dit que c'est les mêmes pneus que l'année dernière.
C'est les mêmes pneus qu'à l'automne, enfin qu'au Go-Playoff.
Sur la Terre, mais qu'à l'automne. Il y a des pilotes qui disent que ce n'est pas le cas. Ils pensent qu'il y a eu un problème... au niveau de la gomme, etc. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le même batch, donc ce n'est pas la même fabrication. D'accord ? Donc, en théorie, si le manufacturier te dit que c'est les mêmes pneus, c'est que c'est les mêmes pneus, ils n'ont rien changé. Ça n'a pas été la même fabrication. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème dans la fabrication ? Je ne sais pas, hein, je ne suis pas dedans. Après, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas les mêmes températures. Donc, aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable, en fait, c'est que ce n'était pas les mêmes températures et que la gomme ne s'est pas déposée comme elle s'est déposée en automne, etc.
Mais il n'y a que la température ou il y a aussi le choix de la résine d'être passé du PJ1 résine qui joue ?
J'allais dire, ils ont parlé de ça aussi, oui.
Sauf qu'en fait, les problèmes d'usure, ils étaient sur la trajectoire du milieu, là où il n'y a pas la résine, en fait. Donc en fait, pour moi, la résine, c'est pas la résine qui a dégradé, qui a fait que les pneus se dégradaient vite. Tu vois ? Puisqu'en fait, c'était sur la trajectoire du milieu que ça se dégradait, et là où il n'y avait pas la résine. Donc ça, pour moi, c'est pas... Et encore une fois, moi, j'ai pas de retour officiel ni rien, mais de ce que j'ai vu, pour moi, c'est pas ça la raison, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de gomme de déposer. Et pas de gomme de déposer, ben voilà, la trajectoire intermédiaire, c'était une râpe à fromage, quoi. Mauvaise température, ce qui fait que voilà, le pneu n'a pas fonctionné du tout comme il aurait dû par rapport à l'automne. Et on a eu cette dégradation. Mais au final... Enfin, est-ce que c'est ce que voulaient les pilotes, hein, finalement, entre ceux qui veulent plus de puissance, pourquoi ? Bah pour justement il y ait moins de temps en fait, pleine accélération et que le pilote ait un peu plus la main et qu'on voit des écarts entre les voitures, ou des pneus qui se dégradent vite. On entend tout le temps ça. C'est ce qui est fait en Formule 1. Donc au final, les pilotes ont eu ce qu'ils voulaient, des pneus qui se dégradent. Et une fois qu'ils ont compris la durée de vie du pneu et comment tu sentais à partir de quel moment en fait ton pneu allait lâcher. et bah t'as vu les pilotes qui savent gérer les autres, quoi. Et donc on a vu des super bagarres parce qu'il y a des pneus, il y en a qui étaient en fin de vie sur leurs pneus, d'autres qui ont cramé leurs pneus en début de run, donc ils doublaient tout le monde, ils se retrouvaient devant, et puis à un moment donné il fallait qu'ils pitent. Et bah en fait on a eu plein de stratégies différentes, plein de dépassements, donc je crois, si je dis pas de bêtises, Geoffroy, il y a eu le record de dépassement
54, ouais,
sur une course short track en cup,
à la tête de la course. Donc si tu te mets côté spectacle, il y a eu un spectacle de dingue. Après, est-ce que c'est artificiel, est-ce que tu considères que c'est artificiel, est-ce que c'est reproductible, parce que fallait quand même qu'il y ait plein de conditions réunies en même temps. Je sais pas, mais en tout cas, en termes de spectacle sur la piste, je pense qu'on a été gâtés sur le deuxième et le troisième segment. Hein. Ça a été top. Et moi, ce qu'on dit souvent, c'est que depuis qu'il y a la next-gen, toutes les voitures sont assez proches. Là, ça a quand même remis la main
sur le pilote, ouais.
La performance dans les mains des pilotes. Et c'est pas une surprise si les trois premiers, c'est les trois plus vieux du peloton. Hein.
Oui, globalement, le top 5, il n'y a pas un pilote à moins de 300 départs, quoi.
C'est... Parce qu'en fait, il a fallu vraiment sentir sa voiture, avoir de l'expérience, etc. Et je ne dis pas que c'est des mauvais pilotes, mais toute la jeune génération qui arrive, là, qui a connu quasiment que la next-gen, où en fait, tu ne te posais pas trop de questions, bah là, ils ont été un peu plus en difficulté. Et ça s'est vu. Regarde, Ty Gibbs, malheureusement...
Ty Gibbs, il aurait dû gagner. Hein. Il aurait pu.
Mais en fait, je pense qu'il n'a pas été capable, ou il n'a pas été capable de sentir quand le pneu arrivait à la corde. Et que, en fait, quand le pneu arrivait à la corde, c'était 4 secondes d'un coup. Hein. Donc, soit tu le faisais venir le tour d'avant, soit c'était mort.
Ah, puis ils ont merdé dans les stands aussi, hein, parce qu'il y a un moment, il repart loin. Hein.
Gibbs.
Ouais, mais tu vois, on parlait de la Gibbs, à l'inverse de Hamlin, et pareil, Geoffroy, notre statistique.
C'est trop de la main avec toi, hein, oula.
Statistique.
Hamlin, ça fait 3 week-ends de suite où son équipe fait le meilleur chrono dans les stands. C'est un record, ça n'a jamais été fait.
Ah, tu m'étonnes.
C'est quand même, enfin, pour la Gibbs, c'est. Il passe du tout au rien, en fait.
Ouais, mais là, la fin de course, ça a été sous verre pendant longtemps. Hein, donc,
Ouais, et les deux qu'on gérait, ben voilà, c'est Truex et Hamlin. Hein.
Ouais, masterclass. Hein. C'est, franchement,
Et même Josh Berry et Kyle Larson, hein, qui reviennent de loin. Hein.
Ouais, mais toi, regarde, c'est les gars qui viennent du dirt aussi. Hein. Regarde, Kyle Larson, ouais. Il vient du dirt. Donc, gérer les pneus, enfin, on sait que c'est clé, hein, dans ces divisions-là.
Mais ouais. On en discutait avec Adrien il y a un moment dans la course qu'il y avait un quadruplé de la Gibbs, et Adrien il fait ah non, mais il y a pas un monde où à la fin ils font un 2-3-4, quoi, ça va merder quelque part, c'est sûr.
Et bah, les deux jeunes,
et pourtant Christophe Ferbel il vient du dirt, tu vois, donc lui aussi il a cette expérience là,
mais sûrement pas assez d'expérience en cup, ouais, tu vois.
Belle en plus, quand tu regardes à la fin de la course, à un moment il est quasiment en tête, ou je sais plus, deuxième ou un truc comme ça, et tu le vois, je crois, 30 tours après, il prend un tour.
Oui, mais parce qu'en fait, Izzy, avant, tu perdais au moins 4 secondes, en un tour, tu perdais 4 secondes. Oui. À partir du moment où tu n'avais plus de gomme, en fait, de la bande de roulement, et que tu passais sur les nappes inférieures, tu perdais 4 secondes d'un coup. Donc, et quand tu ne sortais pas, parce que Kyle Busch, il a fait autant de donuts.
Ah, Kyle Busch, c'était compliqué entre les stands et sur la piste.
Enfin, Kyle Busch à l'envers, c'est aussi l'image de la course. Hein.
Ah là, c'était compliqué pour lui. Ouais, non, mais tu vois, donc pour revenir, globalement, alors oui, c'était une histoire de pneus, mais
en fait, qui se termine bien, j'ai envie de dire.
Et oui, mais sauf que voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'il faut que Goodyear change quelque chose pour la course de printemps à Bristol ?
D'été, ouais.
Enfin, non, mais là, l'année prochaine, cette course-là, qu'est-ce qu'ils font ? On refait la même chose, tu vois ? Parce qu'en fait, maintenant, une fois que les pilotes... Là, je pense qu'on a mis le doigt aussi, et ça, personne n'en a parlé, en tout cas, dans tout ce que j'ai écouté ou lu ou vu, c'est le manque d'essais. S'ils avaient plus roulé en essai, ce moment fusible, en fait, ils l'auraient tous rencontré. Là, pendant les essais, il y en a qui ont roulé, il faisait très chaud, et en fait, ils n'ont pas eu de problème de dégradation du tout. Et à l'inverse, ceux qui ont roulé quand il faisait un peu plus frais... Ben, ils ont eu ces problèmes-là, justement, parce que tu n'avais pas de gomme qui se déposait, etc. Et si tout le monde avait pu rouler, je ne sais pas, 2-3 heures en cumulé, sûrement qu'ils auraient pu aller chercher cette limite du pneu. Sauf que là, cette limite-là, ils ont été la chercher dans le premier segment. Donc là,
On l'a vu, les vitesses ont sacrément diminué quand ils ont compris qu'ils devaient lever le pied. Hein.
Mais en fait,
Geoffroy, tu l'avais dit, ouais, tu avais les temps, toi.
Ils mettaient 2 secondes au tour plus lent, ils étaient en 17, entre 17 et 18, ouais, entre 15 et 16. Et en fait, ils ont fait exactement la même stratégie qu'à Daytona.
Pas pour les mêmes.
Ben, si, pour la même raison, pour limiter les passages au stand, pour conserver, alors, pour conserver des pneus, là, en l'occurrence. C'était stratégique, ah, mais, ouais, c'était non,
à Daytona, c'était pour réduire le temps de passage au stand en carburant.
Ouais, t'économisais du carburant. À Daytona, t'économisais du carburant, là, t'essayais d'économiser des pneus. Au final, c'est une course à l'économie. À Daytona, t'aimes pas. À Bristol, t'aimes bien. Oui, monsieur Lunette, aimé par Loïc Duval.
Jean-Pierre Coff.
Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, Arnaud, là, quand tu dis que tous les pilotes auraient eu senti le point d'inflexion du pneu, etc. Alors, probablement que oui, mais pour moi, ce qui a pimenté la course, c'est un peu justement cet effet surprise que les mecs, ils aient à découvrir pendant la course. Parce que j'en ai parlé avec Geoffroy pendant...
C'est la loterie. Enfin, toi, la course auto, ça ne doit pas être de la loterie pour autant, tu vois.
C'est pas de la loterie, mais regarde la Formule 1, ce que je disais à Geoffroy pendant la course. La Formule 1, il y a une dizaine d'années, quand Pirelli est arrivé, ils ont fait des pneus qui se ruinaient pareil à une vitesse grand V. Et une fois que tout le monde a eu compris comment les pneus fonctionnaient, comment ils s'usaient, etc., il y avait toujours 4 ou 5 passages par la voie des stands. Il se passait rien de plus en fait. Parce qu'ils avaient compris comment marchait le pneu et jusqu'où il pouvait aller. Et du coup, tu perdais cet effet surprise. Et pour moi, là, ce qui a vraiment fait que la course soit sympa, c'est un peu cet aspect loterie, comme tu dis, mais quelque part, que certains ont su capter très vite, et d'autres...
Ah bah, les plus expérimentés, hein.
Ouais.
Non, mais oui, c'est sûr qu'à partir du moment où tu mets de l'incertitude, quelle que soit la façon, tu vas avoir une course un peu plus palpitante, sauf que là, faut pas se mentir, le premier segment...
Tu l'as dit, il y a eu un peu un double effet qui se coule. Hein. Non, en plus, t'as Greg Stucker de chez Goodyear qui intervient pour à moitié déjà faire son mea culpa en direct. Et là, tu dis, oula, il rajoute un train de pneus supplémentaire pour les équipes. Tu dis, il n'y en aura pas un de plus. De toute manière, Goodyear avait plus de stock.
D'ailleurs, il semblerait, et ça, on n'a toujours pas eu le retour, il semblerait qu'il y ait certaines équipes, le train de pneus supplémentaire qu'ils ont eu, c'était des pneus de l'année dernière.
C'était des pneus de l'année dernière, oui, exactement.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'ils les ont roulés ? Parce qu'apparemment, il y a plein d'équipes qui n'ont pas consommé tous leurs pneus, finalement. Même leur pneu, le quota initial.
Ouais, il restait un train ou deux au cas où, quoi. Mais
ah oui, parce qu'il n'y
a pas eu de jaune.
Ouais, il n'y a pas eu de jaune en fin de course.
Est-ce qu'on a consommé les pneus de l'année dernière ? Est-ce qu'ils ont vu une différence d'usure ? Ça aurait permis d'accréditer la thèse de se dire que les pneus, la nouvelle fabrication, il y a eu un problème, tu vois. Et ça, pour l'instant, on n'a pas ce retour-là. Donc ça serait top en fait que ceux qui ont roulé les pneus de l'année dernière, ce week-end, s'il y en a, parce que je ne sais pas s'il y en a, ouais, ils puissent faire une différence. Quoi.
Tu penses vraiment qu'ils vont le dire ? Parce que là, ça mettrait vraiment Goodyear en porte-à-faux.
Non, mais encore une fois, oui et non, parce que là, tout le monde est content. Si tu regardes, tout le monde est content. Les fans sont contents, les pilotes sont contents, alors sauf ceux qui se sont crachés peut-être, mais globalement, ils disent tous qu'ils ont... Ceux qui ont fini la course, ils sont super contents. Donc en fait... Au contraire, je ne suis pas sûr que Goodyear là, ait été mis en défaut. Parce que justement, ok, ça s'est usé, mais ça s'explique. Si ça s'explique parce qu'il y a eu un problème dans la fabrication, bah, au contraire, changez rien. Trouvez l'erreur que vous avez faite, et puis gardez-la, parce que là, les pilotes, ils ont aimé. Quoi, tu vois.
Un pneu Harley Davidson, quoi.
Non, mais ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut, c'est identifier le pourquoi. Pour l'instant, ça ne semble pas être
un
pneu. Ce n'est pas la résine. Donc ça semblerait que ça soit la plage de température en fait à Bristol.
Mais ouais. l'aspect prévisible pour moi, il peut réduire cet effet spectacle quoi. Si
moi je suis jamais partisan du après là c'est ma déformation professionnelle hein, mais je suis jamais partisan d'amener de l'incertitude par le pneu en fait. Tu vois. Quand le cahier des charges la Pirelli en F1 c'était ça, bah, en fait pour moi ça a pas de. Enfin,
c'est un non-sens sportif.
Ouais, c'est pas sérieux en fait de dire voilà, on va tout le monde est, les voitures sont top, tout le monde roule fort. Allez, on va amener de l'incertitude avec un pneu qui se dégrade vite ou qui se dégrade, on sait pas comment. Et moi j'adhère pas à cette politique là.
Si le pilote sait le sentir entre guillemets. Et qui, c'est, enfin, l'incertitude que tu saches pas comment ton pneu se dégrade 3 mois avant ou 3 jours avant, à la rigueur, pourquoi pas. Mais si pendant que tu roules, au fur et à mesure des tours, t'es capable d'évaluer la performance de ton pneu et de dire, allez là, il me reste 2 tours, 3 tours, et qu'au final, t'es pas l'effet surprise où virage 4 ça marche, virage 10 y a plus rien et virage 15 le truc il explose. Là, ça c'est pas bon, je suis d'accord.
Ah mais c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, les pilotes, ils disaient, à partir du deuxième segment, ils étaient capables de sentir quand ils avaient un pneu qui arrivait à la corde. Donc, ils rentraient tout le temps, tout de suite au stand. Il y en a qui ont été capables de rallonger, de gagner 5, 10, 15, 20 tours. Donc ça, ils ont été capables de le faire. Mais en fait, ce qui est gênant, c'est quand tu le découvres en course, en fait. Tu le découvres en course, c'est-à-dire que...
Le premier segment, il est... c'est une séance d'essai, quoi. Ça, on est d'accord.
Là, c'est... Ah ouais, mais c'est ça le problème.
D'où l'intérêt pour moi, enfin, d'où le manque sur cette course-là, d'avoir eu plus d'essais, qu'aurait pas changé la donne. Hein. Hier, les pneus se seraient dégagés de la même manière. Peut-être qu'ils auraient un peu changé les setups. Franchement, je pense que les équipes étaient capables de changer les setups.
C'est ce que dit Luke Duke dans le chat, là. Il disait que les équipes disent que probablement elles avaient des setups un peu agressifs et que...
Elles avaient eu les infos pendant les essais, elles auraient modifié un peu les setups. Mais...
Mais est-ce qu'on aurait eu la même
sinon tu fais pas d'essai. Si le but c'est pas de régler ta voiture, tu fais pas d'essai, quoi.
Mais est-ce qu'on aurait eu la même course
Probablement pas. Probablement pas.
On sait pas, on aurait peut-être eu une course où en fait on n'aurait pas compris pourquoi les mecs ils s'attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et on aurait peut-être eu une course moins pimentée, quoi. On saura jamais de toute façon.
Ouais. Non, mais toi, ce que vous disiez, c'est que pourquoi on a eu beaucoup de dépassements en tête de course? Parce qu'en fait, il y en a, ils s'en foutaient d'être premiers. C'était pas leur rythme. Tu vois, un Hamlin, un Truex, à un moment donné, ils voulaient sauvegarder leurs pneus, donc ils se mettaient sur un rythme. Peut-être qu'il était tout fou, il les a dépassés parce que lui, il voulait aller plus vite. Au final, on sait qu'il y a eu raison, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est pour ça qu'artificiellement, on a eu beaucoup de dépassements en tête. Parce qu'il y en a qui jouaient le long terme et d'autres qui jouaient le court terme, quoi.
Mais est-ce que vous, pendant la course, alors surtout Arnaud et Lilian qui avaient un passif plus important avec la NASCAR, vous n'êtes pas dit Bristol 1 2024, on est parti sur du Coca 600 2005 ou Brickyard 400 2008
Plutôt Brickyard, oui.
Le Brickyard,
ah bah
oui.
Bah bien sûr.
T'y penses forcément. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les pneus éclataient pas non plus. Toi, c'est
oui, les pneus éclataient pas. Mais
On avait quand même des drapeaux jaunes forcés tous les 10 tours pour éviter justement qu'on. Enfin, puis bon, les vitesses sont pas les mêmes non plus, Indianapolis.
Non, mais c'est sûr que ça fait. Mais c'est pour ça que je disais que c'est ça qui me fait dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu des essais. Parce qu'en fait, ce premier segment, il a fait peur à tout le monde, il a servi à rien. À part éliminer certains pilotes, il a servi à rien. Et alors qu'on a eu une super course par la suite. À partir du moment où chaque pilote, il connaissait un petit peu ses limites et sa voiture et ses pneus. Et ça, tu aurais très bien pu le faire pendant les essais. Et du coup, tu gagnais un segment. Là, ça aurait évité tout ce pompélope. Là, tout le monde a parlé. Ça y est, c'est la guerre. C'est le Brickyard. L'autre de Goodyear qui vient faire son speech, il s'excuse alors qu'il ne s'est encore rien passé.
Ouais, alors il y a eu une super course au bout du compte.
Et oui, c'est ça.
Mais c'est ce que je disais. C'est vraiment le double effet. C'est ce qui fait que là, les gens sont dithyrambiques. Parce qu'en fait, on a une course de dingue, quoi.
Si tu mets de côté la course de Phoenix la semaine dernière, bah encore une fois, depuis le début de l'année, si tu as des nouveaux qui suivent la NASCAR, ils en prennent.
Ah, et les arrêts au stand, tu voyais la gueule des pneus, c'était hallucinant, quoi.
Il y avait le feu et tout, enfin c'était la guerre. Il y avait des morceaux de gomme partout.
Et puis les marbles à l'extérieur des virages,
c'était plus des marbles, c'était carrément un revêtement qu'ils ont fait.
c'était du gruyère râpé de pneus, en fait.
Impressionnant.
Est-ce que c'est la meilleure course de l'année à date?
Si tu enlèves le premier segment, ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une course comme ça. Déjà à Bristol, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une course comme ça. Et de l'année, je sais pas. Parce que en fait, comme dit, le problème c'est que moi, c'est que c'est artificiel. C'est ça qui me gêne, tu vois, à dire que c'est la meilleure course de l'année. Parce qu'il y a ce côté
alors,
artificiel.
C'est pareil, les courses sur Oval à plaque, c'est artificiel aussi, puisqu'ils brident les moteurs.
Mais tu veux dire, t'as pas de truc aléatoire au départ, tu vois. Non, mais oui, mais de toute façon, depuis le début de l'année, on a que des super courses. Moi, j'ai du mal à mettre. Est-ce que tu mets Atlanta devant Daytona? Est-ce que tu mets Bristol devant Atlanta? Franchement, à part Phoenix, on l'a dit, qui était un ton en dessous, mais lié au circuit, toutes les autres courses, même Las Vegas, toutes les autres courses, tu les mets au même niveau pour l'instant. C'est un sans faute. Hein. Et tu vois les audiences. Hein. Apparemment, au niveau des audiences, l'année dernière, je crois qu'ils avaient fait une ou deux courses à plus de 4 millions. Là, c'est tout à 4 millions.
Ah, mais Geoffroy a donné la raison la semaine dernière, je crois.
Ouais,
parce qu'il y avait les sports universitaires à la même année, 2023, du coup.
Il y avait les élections, les primaires aussi.
Comment tu peux relier une audience qui est présente d'une course qu'elle ne connaît pas et dont tu sais pas comment ça va se passer, en fait? Tu regardes pas la télé en te disant, ah, putain, aujourd'hui, ça va être la course du siècle, je la
non,
regarde.
Non, mais en fait, encore une fois, ce qu'on dit, c'est que depuis le début de la saison, c'est des bonnes courses. Donc, en fait, les gens, quand tu as une course pourrie, deux courses pourries, ah, tu dis c'est bon, je regarde pas la troisième. Toi, par exemple, là, Austin qui arrive, moi je vais pas regarder. Mais toi, ouais. En fait, quelqu'un qui découvre, qui dit un Daytona, ouah, c'était génial. Atlanta, ouah, c'était génial. Las Vegas, ouah, c'était génial. Donc en fait, il regarde Phoenix, ah, c'était moyen. Je vais quand même retenter. Il regarde Bristol, ouah, c'est génial. Donc en fait, pour moi, l'audience, c'est que bah, il se passe des choses depuis le début de la saison. Et tu dois avoir du bouche à oreille, tu dois avoir les médias, en fait, la télé fait aussi son boulot. Hein. Donc, à partir du moment où il se passe des choses.
Pour le maintien de l'audience, je suis assez d'accord. Mais je pense que s'il y a une augmentation de l'audience par rapport à l'année dernière, elle est probablement due à Netflix. Qui a ramené un nouveau public.
Peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas peut-être pour le truc initial. En tout cas, le fait que ça se maintienne.
Ah, ça, c'est les courses, ça, on est d'accord.
C'est bien que la qualité des courses, elle est au rendez-vous. Hein. Donc,
ouais, ça, je suis d'accord.
Donc, Geoffroy, je ne sais pas. Non, pas forcément la meilleure course de l'année. Pour moi, mais de toute façon, toutes les courses sont géniales. Donc
regarde dimanche.
Non. Franchement, je regarde le résumé. Ça.
Ah oui, c'est ça, tu disais déjà, oui, c'était... Ok.
C'est parce que c'est Austin, c'est une course routière, et que la seule course routière qui a grâce aux yeux d'Arnaud, c'est Watkins Glen.
Voilà, en fait, au pire, pendant les playoffs, mais là, franchement, c'est la cinquième course de l'année, sixième course de l'année.
Oh non. Austin, tu mets Chastain 30e sur la ligne intérieure.
Premier virage,
tu fais un jaune à chaque fois.
Oui, mais tu regarderas les highlights, ça suffit, tu vois, pour voir ça. Tu regarderas les highlights.
Il y aura Kobayashi, il y aura SVJ.
Shane, il est là, il vient aussi, ouais, pour la gueule.
Dans la 16 de la Co-League.
Ok.
Sponsorisé par WeatherTech.
On verra, mais je l'attends pas, mais forcément avec impatience. Voilà.
Ouais. Dénigrement de routier, c'est moche.
tout de suite. Donc, est-ce que vous voulez revenir sur autre chose, sur Bristol? Je pense qu'on a fait le tour des pneus.
Ameline, ouais, on en a pas trop parlé quand même.
Très solide.
Et la Gibbs, hein, d'un point de vue global, j'en parlais la semaine dernière. La Gibbs sur short track, hein, ça fait 3 sur 3 hein, si on compte le clash. Hein.
Toy là, les toys sur short track, attention.
Bah, on va attendre Martinsville et Richmond, on aura fait le tour comme ça de tous les short track.
Bah, une fois qu'ils ont gagné partout, on va dire,
non, mais ouais. Ça fait 3 sur 3.
Ouais, je dirais même les nouvelles voitures. J'ai l'impression que la Chevrolet prend un peu de plomb dans l'aile. Hein, parce que la Ford, elle marche pas trop mal aussi. Et je me demande si elle a pas besoin d'une plaque de restriction, la Chevrolet, finalement, pour être dans le match. Quoi. Parce qu'à chaque fois, il y en a qu'une qui se détache un peu. Cette semaine, c'était Larson. La semaine d'avant, c'était...
Jamais Elliott et Bowman, hein.
En début de course, c'était Elliott à Bristol, et puis après, ça a été Larson et Bowman en fin de course.
Ouais. Elliott, une fois qu'il avait cramé, il a compris. Oh, dis-moi, les pneus, ils s'usent.
Ouais, c'est ça. Mais sur les deux premiers segments, il rentre des points.
Ouais.
Mais après, c'est clair qu'une fois qu'il a disparu, on ne l'a plus jamais revu. Quoi.
Non, mais Hamlin est super solide, et franchement, quand on l'a déjà dit l'année dernière, je veux dire. Ça serait bien qu'il soit champion avant de s'arrêter, hein, parce que quand tu vois comment il domine la discipline, comment il est bon partout, ça serait une misère qu'il soit pas champion un jour. Pour la discipline, hein. Je pense que pour la discipline, ça serait une misère. Quoi. Ça donnerait tellement
surtout
tort.
Surtout pour lui.
En fait, ça donnerait tellement tort au format actuel avec cette finale, tu vois, où tout joue sur la finale. On dira tout le temps, ouais, mais s'il n'avait pas eu ce format-là, il aurait été champion 3 fois, machin.
Ouais, mais ça, c'est pareil pour plein d'autres pilotes. Bah, dès que les formats changent, Gordon, il aurait eu 2 titres de plus.
Ouais, mais il a déjà été champion, toi, là, 3, il repart. Ouais.
Attention.
C'est en fait, en avoir un ou deux de plus, ok, mais là, de ne pas en avoir du tout, ou en avoir au moins un.
Il n'est pas le seul dans cette catégorie. Hein. Marc Martin en premier.
Et Marc Martin, pour moi, il n'a pas dominé sur autant de temps. Tu vois ?
Non, mais il est tombé sur des monstres les 5 années où il fait deuxième.
Oui.
Il y a 2 fois en 90 et en 2002, c'est hyper serré. Et il y a 3 fois où. Enfin, en 2009, il tombe sur Johnson. Dans sa période, pendant les playoffs, il y avait Johnson et le reste du monde. Et 94-98, il se fait allumer la gueule par Earnhardt et Gordon comme c'est pas permis, alors qu'il fait des super saisons, quoi. Enfin, tu t'enlèves ces deux-là, il est champion sans aucun problème, quoi.
On a souvent ça dans plein de disciplines, mais là, tu vois, le nouveau format en NASCAR, il fait que tu n'as plus ça. En fait, même si tu as un Larson qui va gagner 10 courses dans la saison, tu n'es pas sûr qu'il va être champion parce qu'il y a cette finale. Tu
n'as plus besoin de dominer. Ouais.
Voilà. Oui. Je ne dis pas qu'il faut remettre en course le format, mais c'est que ce format-là, finalement, il va peut-être faire en sorte que Hamlin il termine sa carrière sans titre. Quoi.
Ouais. Enfin, dans les années 80-90, gagner 7 courses dans la saison, pas être champion et prendre 400 points dans les carreaux. Il y en a quand même pas beaucoup qui peuvent lever la main pour prétendre à ce titre-là. Hein.
Ah bon, c'est bien que dans certaines disciplines, quand tu tombes sur le gars de la décennie, tu tombes sur un Loeb, tu tombes sur un Schumacher, tu tombes sur un... Enfin, Schumacher, il trichait, c'est pas pareil. Et tu tombes sur un Loeb, tu tombes sur un...
Ou à Hamilton, si tu préfères, pour
Hamilton,
la Formule 1.
Ouais, ou à Verstappen.
Verstappen, il triche aussi. Enfin, ouais. C'est Red Bull qui triche. Mais...
Ouais.
Ils ont tombé dans la routine.
Autre débat.
Tu tombes sur Loeb, t'es content, il s'en va. Tu tombes sur Ogier, tu te dis, il y a plein de pilotes qui sont pas là, jamais été champions, mais parce qu'il y avait meilleur. Là, tu peux te dire, Hamlin, il risque de pas être champion, pas parce qu'il y avait meilleur que lui, parce qu'il a jamais gagné la finale. Quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas pareil. Quoi.
Ouais, il y a quand même eu une année. Il y a quand même une année.
Il a pas besoin de gagner la finale. Hein.
Il y a eu une année où il perd le titre sur la finale en 2010. C'est lui qui se fait dessus. La semaine d'avant à Phoenix, c'est la Gibbs qui se chie dans les grandes largeurs. À Homestead, c'est lui. Mais hormis ça...
Il a mis des années à s'en remettre de cette fin de saison.
Mais les années où il est en finale, il y a toujours un mec qui est au-dessus de lui sur la course, donc sur l'instant T, pas forcément sur la saison.
C'est ça, sur la course. Et c'est ça que je disais. Et encore une fois, moi, le format, il me va très bien. Mais ça crée des situations comme ça où... Parce que pour la carrière d'Hamlin, depuis qu'il est en Cup... Il les enfile, hein. Il est à combien? Il va aller chercher 50 victoires, là, c'est ça?
Il est à 51.
Il a 50, oui. Son objectif, c'est d'atteindre les 60.
Est-ce que finalement, ce qui caractérise un champion, c'est pas être décisif au moment où il faut, et ni avant, ni après?
Oui, mais en fait, c'est tellement dépendant du format, mais bien sûr, oui, t'as raison.
Bah, ouais, mais regarde le match de foot, quand tu passes un quart de finale ou un truc comme ça, t'as 90 minutes où il faut être bon, quoi.
C'est clair. Non, mais t'as... Mais encore une fois, je dis pas que il faut absolument qu'il soit champion. Je dis juste que
Et puis après, chaque format est différent, en fonction de la période, c'est tout.
Ouais, non, mais il mériterait de gagner. Et c'est clair que moi, à la fin de la course, quand je l'ai vu avec Truex, je me suis dit, putain, les deux là, masterclass quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Mais il lui manque le petit truc pour être champion.
Les quarantenaires là, les deux là, c'est ça, à l'ancienneté.
Ah ouais, non, mais clairement, c'est... là-dessus, ils ont été...
Truex, c'est déjà champion, par contre.
Ouais, Truex, c'est déjà fait. Ouais, mais Truex, tu vois qu'il est plus... Enfin, c'est plus le Truex qu'on a connu.
C'est ce tourné d'adieu, là.
Ah, c'est fini. Je pense que Truex, ça y est, il est pas... Enfin... Ouais, bref.
Ouais, exactement. On s'arrête là-dessus?
Yep. Oh, je crois qu'on a explosé la demi-heure, là.
49 minutes. Ça veut bien faire une demi-heure quelque part dans le monde. Donc nous, on va se retrouver en fin de semaine pour le podcast Overtime sur l'actualité de la semaine. On reviendra sur la course de truck également de Bristol. On présentera l'épreuve d'IndyCar, on n'en a pas touché un mot, la fameuse All-Star du côté du Thermal Club. Oui Arnaud, voilà pourquoi on veut que tu sois là la semaine prochaine. Tu te rends compte un peu, la All-Star au Thermal Club et la Cup à Austin.
Ah, le week-end de dingue.
Ouais, cette semaine, c'est Adrien qui faisait la gueule. La semaine prochaine, c'est toi. Donc voilà, on reviendra sur tout ça dans Overtime. Et puis sur les différentes actus de la semaine en fonction de ce qu'il y a. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Luke Duke, Bum Drafting TV, Gilles Dabé, Lugubre, Nico RST qui était sur le chat sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, de Discord à Twitter, à vous abonner sur YouTube, à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast que vous écoutez, à nous faire vos retours. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit, on a été complet, Arnaud.
Ouais.
Tu valides? C'est bon, le chef valide, on est content.
Et il y a le petit message de la fin d'Adrien.
Le petit j'aime, mais abonnez-vous.
Magnifique, magnifique. Merci à toutes et tous, et puis très vite sur Vestracing. Bye bye.
Ciao.
Salut tout le monde. Bye.